déposer sur mon cœur un sujet qu'on va traiter en plusieurs vendredis. Hein. Ça ne va pas être tout d'un coup, parce qu'autrement, ça serait, on risque de faire une indigestion. Il y a tellement à dire. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est ce terme qu'on a bien lu bien des moments, où l'attitude d'Abraham, la confiance qu'Abraham il a eue en l'Éternel, elle a été amputée d'une certaine manière. Dieu en a donné une valeur bien précise. Qui aimerait être reconnu comme un homme de foi comme Abraham? Je crois que c'est le désir de tout chrétien, n'est-ce pas? Et ça commence par la confiance en Dieu. Et vous verrez, dans les différentes thématiques qu'on va traiter, il y a une pensée particulière pour ce soir, c'est que la prière ne vit pas dans l'indifférence. La prière ne vit pas dans l'indifférence. On va lire un premier texte, Genèse chapitre 14, à partir du verset 1 au verset 16, pour faciliter les choses, la technique, elle va nous suivre avec les textes. Et un grand merci pour cela. Donc, il y a un ensemble de noms qui peuvent nous sembler un peu barbares parce qu'ils ne font pas partie de notre répertoire. Néanmoins, c'est intéressant de les lire parce qu'il y a quelque chose qui nous interpelle. La parole de Dieu nous dit que dans les temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Éléassar, de Kedalaraomer, roi d'Elam, et de Tildéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, et Bircha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Abma, et Shemiber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est à Tsoar. Ces derniers rassemblèrent tout dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm. Alors juste, les Réphaïm, c'était les géants. D'accord? Ils bâtirent donc les Réphaïm à Etzerok Kanaïm, les Soudzim à Am, les Min à Chavé Kiriatam, et les Oriam dans leur montagne de Serre, jusqu'à Chêne de Paran, qui est auprès du désert. Puis ils s'en retournèrent vers Aen Mishap, qui est à Kadesh, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Tsatson Tamar. Alors ils avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est à Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Sidim, contre Kedorlaomer, roi d'Elam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Éléassar. 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et ils y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyant vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu, celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Échol et le frère d'Amner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 hommes de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit. Il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Quand on fait une lecture comme ça, c'est vrai qu'on pourrait se perdre avec les prénoms, avec les royaumes, mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est ce qui a précédé et ce qui va suivre. En effet, je vous rappelle qu'il y a eu un moment, Lot a décidé de partir avec Abraham, puisque Abraham avait reçu une promesse de la part de Dieu. Et Abraham va quitter le territoire où son père était et va suivre la volonté de Dieu, puisque Dieu lui a dit « Je te donnerai un nouveau territoire, je te donnerai un héritage, je ferai de toi un peuple nombreux ». Le chemin a commencé quand on commence à marcher avec le Seigneur. On ne sait pas exactement jusqu'à où le chemin va nous amener. Reste le fait que la bénédiction de Dieu était sur Abraham et Lot aussi a été béni à tel point qu'ils avaient tellement de brebis, tellement de chameaux que c'était devenu un problème de pouvoir pour tous. Et comme il commençait à avoir querelle entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham, Abraham, pour éviter un différend, pour éviter une querelle entre frères, il lui dira, écoute, choisis le lieu où toi tu veux aller et moi j'irai dans la direction opposée. Et la parole de Dieu nous dit que Lot avait choisi de s'installer près de Sodome puisqu'il avait vu que ses vallées étaient ressemblables à celles d'Égypte. Première chose à réfléchir. Lot se laisse attirer par ce qu'il connaît. Il a quitté un lieu pour entrer dans une bénédiction. Il a goûté à la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Et malheureusement, les penchants de son cœur, comme il n'était pas encore véritablement accroché à Dieu, l'ont amené à prendre une décision. Il a décidé. Abraham, il est parti dans l'autre sens. Dieu lui montrera quel est l'héritage qu'il lui donne. Et certes, si vous lisez tout le texte, vous verrez l'héritage que Dieu donnera à Abraham, il est incroyablement grand. Parce que Dieu ne voit pas petit. Et je voudrais vous dire que ce que Dieu a prévu pour vous, pour nous, nous on peut voir petit, mais Dieu voit bien plus grand. Mais c'est bien que nous on regarde petit, ça nous garde dans l'humilité. C'est mieux que Dieu nous confie plus grand, alors que nous nous cherchons petit. Parce que quand on cherche grand et on reçoit petit, parfois on est déçu. N'est-ce pas ? Lot, il s'est dit, ça y est, j'ai trouvé la bénédiction. Et en réalité, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sauter sur une situation. Et je pense qu'il faut quand même faire attention à la différence entre le plan de Dieu et parfois les occasions qui se présentent à nous qui ne sont pas forcément le plan de Dieu. Il faut faire attention à ne pas être quelqu'un qui saute sur toutes les occasions qui passent sans discerner si c'est un projet de Dieu ou c'est un piège de l'ennemi. Lot prendra sa décision. Et la parole de Dieu nous dit qu'Abraham, il est parti. Or, le texte nous fait part d'une situation où on vient de lire que des rois qui étaient soumis pendant 12 ans à un roi plus fort qu'eux, ils avaient été considérés dans une situation un peu compliquée, d'oppression, et que ce roi était venu avec ses collègues, en réalité, pour reprendre le pouvoir, pour reprendre autorité. Et quand vous regardez, ils se sont battus contre des géants. Ils se sont battus contre ces rois. Ils les ont soumis. Et comme ils étaient en campagne, ils sont allés encore plus loin. Ils ont occupé encore d'autres territoires. On peut imaginer que c'était une armée quand même assez vaillante. Jusqu'au moment où, en réalité, ils vont prendre les villes de Sodome, de Gomorrhe, ils vont tout rafler. Et en même temps, Lot, sa famille et ses biens vont être pris aussi avec pour être des esclaves. Et la parole de Dieu nous dit qu'un homme fuit et va annoncer à Abraham la situation. Or, il peut arriver parfois que quand on voit une situation où quelqu'un prend une mauvaise décision, on voit déjà ce qui va se produire, mais même si on le partage à la personne, elle a du mal à le voir. N'est-ce pas ? Et quand on apprend que cette personne, elle passe par le problème qu'on avait déjà vu venir, quelle est notre réaction ? J'en ai noté quelques-unes. Vous verrez si on a les mêmes. J'en étais sûr. S'il m'avait écouté, il apprendra désormais la leçon. Et je me suis posé la question si dans cette attitude de cœur, si on réagit comme ça, même si on part, on a raison, est-ce qu'à partir de là, est-ce que notre prière, elle est bonne ? Est-ce qu'on ne risque pas en réalité par cette position d'exprimer nous-mêmes un jugement alors que certainement si on fouille bien dans notre mémoire, nous avons fait de même, voire même de pire. Où est-ce qu'on dit Seigneur, mon Dieu, fais grâce ? Est-ce qu'on dit Seigneur, accorde à ton serviteur ou à ta servante d'être un instrument de relèvement. Amen. Seigneur, dans la prière, je cherche ta face et dans l'action, j'accomplis ta grâce. Cette phrase s'est imposée sur mon cœur ce matin. Je me suis dit, Seigneur, à un certain moment, quand on apprend que quelqu'un il passe par une manière, par une situation, même si nous, on avait pu l'avoir, même si tu nous as avertis, même si tu nous as, en réalité, déjà montré le sujet, est-ce que, si la personne n'a pas entendu, à partir de là, on est dégagé de toute forme de responsabilité? Ou est-ce que notre rôle est celui de prier pour dire, Seigneur, fais qu'à un certain moment, on puisse non seulement chercher ta face pour dire, Seigneur, comment faire, mais aussi être dans l'action pour accomplir ta grâce. Et là, on voit Abraham faire quelque chose. Et je ne sais pas si on arrive à considérer le risque qu'Abraham prend. Il dit le texte au verset 14, « Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier. » Il ne dit pas son neveu. Pourtant, c'était son neveu. Il dit son frère. Il dit le texte, « Il arma 318 hommes. » Qu'est-ce que c'est, 318 hommes contre une armée formée de 5 rois qui ont déjà terrassé des géants, qui ont déjà terrassé des peuples entiers, qui ont soumis des territoires immenses? Abraham se présente et part en guerre avec 318 hommes. Seul, ça aurait été plus compliqué, certes, mais avec 318 hommes, si on allait voir quelqu'un qui a fait l'armée, il lui dira, laisse tomber, t'as déjà perdu d'avance. Ne t'engage pas dans ce combat, ne t'engage pas dans ce conflit, c'est perdu d'avance. Et combien de fois, frères et sœurs, on peut se retrouver nous-mêmes dans une situation où on se dit, il y a un problème, ah mais c'est trop grand pour nous. Est-ce que ça vous est arrivé de dire, c'est trop grand pour moi? Oui? Telle ou telle situation qui peut toucher à la situation physique, qui peut toucher à un problème moral, qui peut toucher aussi à un problème matériel. Des fois, Seigneur, c'est trop grand pour moi, je ne vais pas y arriver, c'est impossible. Mais là, je ne sais pas vous, la lecture que vous en faites, Abraham, il ne va pas se poser beaucoup de questions. Hein. Il dit, dès qu'il a su qu'il a appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 hommes. Et là, il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est premièrement cette pensée qu'on lit à bien des moments dans la parole de Dieu. Dieu agit par un petit nombre comme par un grand nombre. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est nombreux qu'on aura la victoire. Mais c'est parce qu'on a la foi qu'on aura la victoire. Alors, est-ce que vous êtes venus avec foi ce soir? Oui. Un peu. Faudrait pas... Est-ce que notre foi, elle est prête à dire, Seigneur, je sais que moi tout seul, je ne peux pas, mais avec toi, il y a même des montagnes qui vont se déplacer. Seigneur, des choses qui pour moi sont un obstacle insurmontable, Seigneur, toi, tu vas y arriver. Ces rois s'étaient battus avec des géants et ils ont eu la victoire. Abraham, il y va avec un grand géant devant lui, c'est Dieu. Et il sait que Dieu va se battre dans la situation. Et le texte nous dit qu'à un certain moment, il va utiliser une manière de faire. Premièrement, il se leva dans son cœur. Est-ce que quand on entend que quelqu'un est en difficulté, est-ce qu'on a cette attitude de dire « je me lève dans mon cœur, je ne peux pas laisser mon frère, je ne peux pas laisser ma sœur dans sa difficulté ?» Si c'est le cas, je vais vous dire, même quand nous on traverse la difficulté, Dieu fera que quelqu'un se lèvera pour nous dans la prière. Amen. Alors, regardons-nous les uns les autres comme un allié potentiel de dire, Seigneur, aujourd'hui c'est lui qui a besoin de moi, je ne juge pas. Seigneur, demain peut-être c'est moi qui a besoin. Seigneur, fais qu'on ne soit pas dans le jugement, mais qu'on soit dans une action de relèvement. Deuxième chose, il dira le texte qu'il a choisi 318 hommes, et j'ai mis dans mes notes, le combat n'est pas seulement une question de bravoure, des braves, dit le texte, hein, mais aussi de fidélité. Il a choisi des hommes qui étaient nés dans sa maison. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles, pas seulement braves. On peut être très brave dans notre matière, on peut être même, je dirais, quelque part des personnes au top dans telle ou telle fonction, mais Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes en fonction, cherche des hommes et des femmes de cœur, des hommes et des femmes fidèles à sa parole. Troisièmement, il nous dit qu'il y a une stratégie. Il va diviser les 318 en deux. Ça fait combien? Allez, hop, 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 trop tard. Ah, c'est bien. 159, c'est encore moins que 318. Eh ben, on se dirait... Eh ben oui, merci. Mais en réalité, on pourrait se dire, c'est mieux rester tous ensemble, non? Quand on est ensemble, l'union. Ah. Il aurait pu se dire, c'est mieux qu'on reste tous ensemble. Mais non, il va encore diviser par deux. Ça nous rappelle un peu une histoire avec quelqu'un à qui Dieu lui dit, t'en as trop là, on va renvoyer du monde. Vous êtes trop nombreux, vous risquez de vous dire que c'est grâce à vous. Hein? Non? Et là, la parole de Dieu nous dit qu'il divise. Après, j'aimerais aussi vous dire qu'à part la question d'une stratégie qu'il faut demander à Dieu, dans toutes les situations, demandons à Dieu de nous donner la bonne stratégie pour aider quelqu'un. N'y allons pas avec nos gros sabots. Seigneur, donne-moi les paroles. Seigneur, donne-moi l'attitude, donne-moi le cœur. Seigneur, que dans mes prières, il n'y ait aucune forme ni d'amertume ni de revanche. Mais Seigneur, que mon cœur soit pur pour que toi, tu puisses te servir de moi. Seigneur, Dieu ne se sert pas d'un cœur qui est impur. Soyons clairs. Je dirais aussi que pour vaincre, il faut aller jusqu'au bout. Au verset 15, en effet, il nous est dit qu'il divisa sa troupe pour aller attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ne s'est pas contenté de gagner. Il aurait pu dire, on a gagné, c'est bon, on rentre à la maison. Non, il va aller jusqu'au bout. Il veut être sûr que l'ennemi ne reviendra pas sur l'histoire, que l'ennemi ne va pas profiter de l'attaquer. Vous savez, si vous regardez dans l'armure du chrétien, Éphésiens 6, il y a une particularité dans ce type d'armure. Il y a l'armure qui couvre le torse, le cœur, d'accord ? Mais il faut savoir que la partie du dos, elle n'était pas couverte. L'armure, elle couvrait l'avant, et à l'arrière, il y avait juste deux sangles qui venaient, qui se tressaient dans le dos. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on ne doit jamais tourner le dos à l'ennemi. N'est-ce pas? Donc Abraham, il le sait, c'est un principe spirituel. Il dit, je ne vais pas le laisser lui donner l'occasion de pouvoir venir m'attaquer derrière le dos. Et frères et sœurs, gardez-vous de laisser votre dos à découvert parce que l'ennemi va le saisir. N'est-ce pas? Rien laisser aux mains de l'ennemi, ils vont tout reprendre, hommes, femmes et richesses. Hommes, femmes et bénédictions. Je crois que le Seigneur ne veut pas que la bénédiction qui a été donnée à ses enfants, ce soit l'ennemi qui en profite. D'accord ? Et après, le texte nous dit qu'il a ramené donc les captifs, mais il a libéré aussi les prisonniers. Et je crois que nous sommes là ce soir, non pas seulement pour prier pour nos frères et sœurs, mais aussi pour dire, Seigneur, touche des cœurs, des personnes peut-être inconverties encore, Seigneur, mais qui sont prisonniers de l'ennemi. Et j'aimerais juste terminer avec ce verset du Romains 12 qui dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » On va prier et on va dire au Seigneur encore ce soir, Seigneur, quelles qu'ils soient les nouvelles qu'on a pu recevoir de droite ou de gauche, quelle qu'il soit la personne qui est en difficulté, Seigneur, nous ne sommes pas là pour juger, mais nous te disons, Seigneur, fais de nous encore ce soir des hommes et des femmes qui sont capables de chercher ta face, mais aussi d'accomplir, Seigneur, ta grâce, d'accomplir, Seigneur, dans l'action, Seigneur, ce secours qui vient d'en haut. Seigneur, merci encore, parce que ta main, Seigneur, n'est pas trop courte, et ce n'est pas une question de nombre, Seigneur, c'est une question de cœur, c'est une question de foi, c'est une question aussi, Seigneur, pour nous ce soir, Seigneur, de mettre, Seigneur, notre foi en action. Seigneur, quelle qu'il soit la difficulté, rien est impossible à notre Dieu. Seigneur, merci encore pour ta fidélité. Merci encore pour ta bonté et ta miséricorde. Seigneur, certes, il y a des frères et sœurs qu'on est triste de voir dans la souffrance, dans la difficulté. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, t'implorer. Viens à leur secours. Viens à notre secours, Seigneur. Nous ne pouvons pas, Seigneur, rester les bras croisés à regarder ou, Seigneur, dans l'indifférence, Seigneur, parce que notre prière, Seigneur, n'aurait plus de force. Seigneur, si nous vivons dans l'indifférence, notre prière n'a plus de force. Mais Seigneur, contre notre cœur interpellé de la même manière que le tien a été interpellé en voyant tous ces hommes et ces femmes, et tu diras que c'était comme des brebis égarées, sans berger. Seigneur, tu as été ému, tu as été touché au plus profond de toi-même. Seigneur, mets en nous des entrailles de miséricorde pour celui qui souffre. Seigneur, donne-nous de ne pas regarder, Seigneur, à des principes humains, mais de chercher les principes qui viennent de haut, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons compter sur la prière les uns des autres. Et à toi, Seigneur, revient toute la gloire, parce que c'est toi, Seigneur, qui remporte la victoire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alléluia. Amen. Élevons nos voix et prions. Prions pour les différents sujets qui peuvent être sur le cœur.